La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Optimiste. Ce soir au programme interview de Paul Lelièvre du 122, d'Emilien du Quasi Comedy Club et de Benjamin du Angers Comedy Club qui viendront nous présenter le Men Joke Festival. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Loane pour sa première chronique avec nous. Elle nous parlera du racisme systémique dans certains messages publicitaires. Attention. En tout cas, ajustez bien votre gilet de sauvetage. L'Optimiste, c'est parti. Du 4 au 6 juin 2022 au 122 se tiendra le Men Joke Festival. Avec nous pour en parler, Paul Lelièvre, programmateur artistique au 122. Salut Paul.
Salut.
Emilien du Quasi Comedy Club. Salut Emilien.
Salut.
Humoriste donc.
Ouais.
Voilà. Et Benjamin du Angers Comedy Club.
Salut.
Humoriste chargé de programmation.
Pas humoriste, mais tout le reste. C'est vraiment tout le reste.
On l'a autour de cette table, c'est un événement sur 3 jours, vrai festival d'humour, table ronde, stand-up, spectacle, tout ça avec donc vos 3 structures, mais aussi les Folies Angevines qui ne sont pas présentes ce soir autour de la table.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Je travaille aussi.
Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, vraie offre d'humour à Angers.
Ouais. Bah oui, c'est très récent, c'est assez nouveau depuis 2 ans. On est les premiers, le Angers Comedy Club, à avoir offert du stand-up, notamment sur Angers, et ça s'est développé petit à petit, ça a pris beaucoup donc aux Folies Angevines pour les premières choses, et ensuite on a ouvert d'autres scènes, et il y a l'initiative d'Emilien et d'un copain à lui, le Quasi Comedy Club, qui est après arrivé après. Quoi.
Et pourquoi ce besoin de diversification?
Parce qu'en fait, même s'il y a énormément de scènes, le Quasi à la base c'était pour mettre en avant des humoristes qui sont pas encore confirmés. L'Angers Comedy Club essaye de ramener pas mal d'humoristes, que ce soit de Nantes, de Paris, Bordeaux, mais qui sont confirmés, qui ont 1 voire 2 ans de stand-up, même plus. Mmh. Et nous, avec le Quasi, on voulait plus mettre en avant les petits humoristes, ceux qui n'ont pas spécialement la possibilité de faire des scènes un peu plus importantes.
Mais avant, ils étaient où tous ces humoristes qui aujourd'hui jouent dans vos structures? Ça fait que 2 ans, enfin c'est tout récent, on commence à en entendre parler un peu avec les Folies et tout.
Mais... c'était pas en fait, les humoristes en juin, il y en avait très très peu, enfin personne s'était entre guillemets déclaré. En fait, vu qu'il n'y avait pas d'offre de scène où les humoristes pouvaient monter, finalement il n'y avait pas d'humoristes, quoi. Ils faisaient pas de stand-up, on était 3 ou 4 au début. Et là, on est plus d'une vingtaine, 2 ans après, quoi. Donc c'est super cool. Et en proposant des nouvelles scènes qui sont accessibles aux jeunes, forcément, direct, les jeunes, ça leur donne envie de monter, et ils montent. Et...
C'est les scènes qui créent les humoristes et pas l'inverse? Ou c'est conjoint?
C'est l'œuf et la poule, je pense, un truc.
Oui.
Dans l'idée.
C'est que en tout cas, c'est vraiment très récent, cette offre d'humour à Angers. Et vous, au 122, vous n'avez pas loupé le coche?
Non, carrément. Nous, c'était tout simplement Emilien et Yann, hein, du Quasi Comedy Club, qui sont venus nous voir... C'était fin 2021, en nous présentant leur projet, nous demandant si on pouvait les accueillir, et c'était avec plaisir, quoi. Donc on les a chez nous depuis décembre 2021.
Parce que vous jouez, vous êtes hébergé par le 122.
Pour le Quasi, ouais. En gros, uniquement pour le Quasi. Après, on a réussi à avoir d'autres salles comme le Jokers il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et pour
puis les Folies jouent aux Folies.
Et les Folies jouent aux Folies, ouais. C'est vraiment, on garde ça. Comme ça. Ouais.
On voit que l'importance aujourd'hui des humoristes dans la société, mais surtout dans les médias, prend vraiment de l'ampleur. Il y a des chroniques, encore des chroniques, des sketchs, encore des sketchs à l'antenne des radios, mais aussi évidemment sur les réseaux sociaux. A priori, on a avec nous une star de TikTok en ce moment. J'ai cru comprendre. Qu'est-ce que c'est cette histoire de TikTok?
En gros, on a fait une vidéo avec Amixem, avec le youtubeur Amixem par hasard dans la rue avec donc 2 autres humoristes, Louane et Baptiste. Merci. Et ça a pas mal marché pour Louane et moi parce que maintenant on est retranscrit pas mal sur TikTok et sur Instagram. Donc on voit nos vieilles têtes bien dégueulasses de l'après-midi en train de faire nos vieilles blagues. Et puis moi, en fait, par un ami m'a dit tu devrais essayer TikTok pour continuer, genre essayer de surfer, enfin vraiment essayer de continuer là-dessus. Et je suis passé de 100 abonnés à 110 000 abonnés là en une semaine. Ouais, donc c'est marrant.
C'est cool.
Ouais, non, grave, c'est trop cool. Enfin, moi, c'est un concept d'humour que j'aime bien, à savoir travailler la vidéo. Moi, je travaille énormément des personnages ou des situations, mais qui sont très compliquées à faire sur scène. Donc, je me dis, quand j'ai un perso que je me dis sur scène, ça va pas être intéressant, je vais le faire en vidéo, au moins les gens peuvent le voir, et puis ça vide la poubelle en quelque sorte.
Et ce qui est intéressant avec le stand-up, parce qu'au final, il y a pas mal de petites blagues qui sont. Vraiment courte en termes de temps, et donc en fait ça fit bien avec les réseaux sociaux. Et tu vois, sur TikTok c'est une minute maximum, bah tu as le temps de faire 2-3 blagues, et en fait le stand-up c'est quelque chose qui fonctionne bien sur les réseaux. On le voit avec tous les gens connus qui mettent juste des petits passages de leur sketch sur les réseaux, et ça donne envie aux gens d'aller voir leur spectacle et ce genre de choses, quoi.
Alors justement, c'est le sujet d'une table ronde que vous allez aborder au 122. Je voulais juste poser une question à Paul. C'est cool à la radio, c'est cool sur les réseaux, mais c'est quand même important que ça se passe avec du public, dans des avec des gens, et c'est ça aussi que vous avez voulu continuer peut-être au 122.
Ouais, carrément, bah surtout qu'on n'a pas eu de public pendant 2 ans, donc là on est content d'en avoir. Bien sûr, ouais, bien sûr, ça a tout son sens en vrai. En fait,
parce qu'en fait, les gens, je suppose que pour vous, pour toi en tant qu'artiste, c'est important de voir les gens rire, de voir les gens se marrer, et que ça passe pas que par des likes, des commentaires.
Ouais, enfin, puis surtout les.
Enfin, c'est vrai que
les commentaires sur.
Les gens rigolent beaucoup, mais.
Ouais, c'est ça, non, mais c'est vraiment en fait. Sur le, c'est vachement mieux d'avoir un fou rire du public sur le plateau devant 130 personnes. Que des commentaires, en fait. Même si, surtout les 3/4 des commentaires, c'est juste en mode MDR. Et t'es là en mode, ouais, c'est mon taf.
Trop des barres.
Trop des barres. Max de LOL. Regarde Kevin.
Justement, c'est donc, je le disais, un des thèmes d'une des tables rondes que vous allez organiser le samedi après-midi. La thématique, c'est comment les réseaux sociaux ont fait évoluer l'humour.
Ouais.
Ça change quoi, les réseaux sociaux, dans la pratique de l'humour ? Comment est-ce qu'on écrit est-ce qu'on écrit différemment pour les réseaux sociaux que quand on écrit pour la scène ?
En fait, ça dépend de ce que tu fais avec ton matériel, parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit ça va être ce qu'on appelle de l'archivage. Donc par exemple, ce qu'il y a sur Netflix, une heure de stand-up, c'est une archive. En fait, c'est un spectacle qui a été juste retranscrit. Et il y a des concepts qui sont plus des projets artistiques. Notamment, moi je pense à Kémil, le comique, qui a fait un documentaire sur le stand-up et qui le développe un peu sur Internet, qui le développe sur Instagram. Je pense à Cab, qui elle filme ses aventures à Paris où elle va jouer dans les catacombes et tout, et elle se filme. Ça reste un documentaire. Après, pour les réseaux, ça dépend de chacun, ouais, encore une fois. C'est soit tu vas mettre tes passages que t'as plus spécialement envie de jouer, ou que t'as joué et rejoué, et que t'as juste envie de faire profiter à tout le monde, ou à l'inverse, tu vas vraiment utiliser Instagram et TikTok, pour ma part, comme un vrai outil artistique en dehors de la scène, en fait.
Donc tu vas écrire pour TikTok.
Ouais, c'est vraiment écrire pour Instagram et pour TikTok, parce qu'il y a le montage, il y a le son, il y a tout, enfin, il y a des trucs que tu peux pas avoir sur scène, en fait.
Autre sujet d'une autre table ronde que vous allez organiser, le rire pour avancer, la relation entre l'humour et les traumas. Ça, c'est un sujet hyper fort. Ça émane de l'un d'entre vous, ici.
C'est...
c'est quelqu'un qui n'est pas là.
Non, si, c'est moi. C'est moi.
C'est toi, Emilien.
Non, c'est moi. C'est juste, moi, je parle de dépression et de... Je parle très ouvertement de dépression et de suicide sur scène. Et je me suis dit, en fait, il y a plein d'humoristes qui font ça. Et en fait, c'est super important de... Comment pouvoir parler de sujets qui sont un peu tabous encore aujourd'hui par le rire, sans s'en moquer. C'est ça la grosse question qu'on va poser, c'est rire vraiment pour avancer et pas pour se moquer d'une maladie ou d'une communauté ou quoi que ce soit.
Justement, la frontière est quand même fine entre la moquerie, qu'on peut en retrouver beaucoup en ce moment par beaucoup de stand-uppers, ce qui fait que ma maman, par exemple, n'aime pas le stand-up, et justement cette satire fine ou ce pointer du doigt des choses...
Selon moi, le truc qui fait que tu ne t'en moques pas, c'est que tu le vis. Enfin, moi, je sais que je parle très ouvertement de la dépression parce que je l'ai été. Et en fait, je parle de mon cas. Donc, c'est ma personne. Je me moque de moi. Donc, est-ce que c'est de la moquerie ? Pas vraiment. C'est plus une manière d'avancer. Mais jamais je parlerai d'une maladie que je n'ai pas ou de me moquer de comment quelqu'un vit une maladie pour ça. C'est toujours... Enfin, moi, c'est ma vision de la chose. C'est jamais se moquer. C'est toujours essayer de faire réfléchir d'une manière que les gens ne s'attendent pas par le rire.
Alors... Une dernière table ronde, je suis désolé, on doit avancer vite, mais
il y a pas de problème.
Il y a beaucoup de choses à raconter. Pour évidemment avoir accès à toutes ces tables rondes, rendez-vous au 122 les 4, 5 et 6 juin. Troisième table ronde. Les 3, 4, 5. Oui, 3, 4, 5 juin.
Samedi 4 juin, c'est les talks.
Voilà.
Au 122.
Je me suis décalé d'un jour. Troisième table ronde, stand-up et sketch-up. Les différences. Alors, je n'avais jamais entendu le mot sketch-up avant, quoi.
Tu veux...
Non, vas-y.
Non, c'est moi, c'est mon talk encore. En gros, le sketch-up, c'est ce qu'on appelait le stand-up dans les années 2000. C'est ce qui se passe avec ce qu'il y a avec, par exemple, Elie Simoun ou Gad Elmaleh ou Les Inconnus. C'est un personnage, une histoire, noir sur scène. On passe à une autre histoire, il n'y a pas de déroulé. Alors que le stand-up, c'est vraiment juste je parle, je fais des blagues, je parle de ma vie, rire. Enfin, et vraiment, on a remarqué avec d'autres humoristes que là, en ce moment, on est dans une version de l'humour qui est purement stand-up, à savoir vraiment avec des gars comme Ken Kojandi, Gad Elmaleh, Nordine Gonzo, Kevin Robin, bref, tous ces gens-là, la méthode classique du stand-up à l'ancienne des années 70. Et en fait, là, on commence à revenir vers des personnages, il y a des gens qui amènent des personnages sur scène, et voir juste des sketchs où ça dure 10 minutes, et puis après, ça continue, quoi. Donc, on voulait voir comment les deux peuvent s'allier, et... quelles sont la différence entre les deux?
Un humoriste que j'aime beaucoup va passer à Angers à l'occasion du Festival d'Anjou, Marc Fraise, avec son personnage de Monsieur Fraise et maintenant dans son nouveau spectacle Madame Fraise. Lui, c'est un peu la quintessence du personnage.
Ouais, ouais, de ouf.
Oui. C'est les choses qui inspirent.
One Man Show. C'est vrai que pour le coup, c'est plus One Man Show, du coup, vraiment un personnage avec des déguisements, j'allais dire, mais des costumes, ce genre de choses, quoi. Ce qu'on fait beaucoup, beaucoup, qu'il n'y a pas en fait dans le stand-up, c'est vraiment la différence entre One Man Show et stand-up, c'est que. Le stand-up, c'est un micro et une voix, point. Et limite, enfin, un corps aussi, je veux dire, mais en tout cas, il n'y a pas de costume et de choses comme ça.
Il
n'y
a pas de côté trop théâtral dans le stand-up. On essaye d'être le plus naturel possible.
Et est-ce qu'il y a une forme un peu plus noble que l'autre?
Non.
Bon, non, suivant ce que les artistes préfèrent choisir et puis ce que les gens préfèrent regarder. Enfin, c'est vraiment, on n'a pas de... ce que serait de jugement ou quoi que ce soit.
Non, pas du tout. Ça sera toujours au niveau du goût, en fait. Ça dépend du... Ouais, si tu préfères juste quelqu'un qui parle de sa vie, tu vas aller voir du stand-up. Si tu préfères juste des trucs un peu plus absurdes ou développés de manière plus théâtrale, bah ouais, tu vas aller voir du one-man show, du sketch-up, par exemple.
Pendant ces trois jours, on va aussi découvrir, et je reprends les notes, l'ambiance d'un comédie-club, mais aussi ses coulisses. Paul, qu'est-ce qu'on va vraiment découvrir à l'occasion de ces trois jours?
Eh ben, sur les trois jours, pour faire une petite rétrospective, on va avoir un vendredi soir avec un comedy club, on va dire classique, au sens classique du terme, avec plusieurs artistes qui vont passer, se succéder pendant 10 minutes et tester des blagues. Le samedi, on va voir justement les talks, tout le samedi après-midi, en accès libre. Et c'est là où je parlais de coulisses, en fait. Je parlais de coulisses, puisqu'en fait, on va clairement assister à des talks, à des conférences avec des humoristes qui vont justement témoigner de leur parcours, témoigner de leur processus de création. Donc ça va être plutôt ça, l'aspect coulisses. Et puis le soir du samedi, on va assister à un spectacle avec une première partie, une deuxième partie, avec Kevin Robin et Nordine Gonzo. Peut-être qu'on va en discuter un peu plus après.
Ouais.
Et le dimanche, ça se passera au Folie Angevine pour voir à 20 fois 3 minutes. Donc,
En tout cas, c'est vrai qu'à l'occasion de ce festival, comme les comedy clubs, notamment popularisés par le Jamel Comedy Club, on se dit, mais en fait, qui sont ces gens? Comment ils font pour écrire mille et une vannes? Comment est-ce qu'ils arrivent à se retrouver ensemble pour créer? Est-ce qu'on va aussi avoir quelques réponses à ça à l'occasion de ces trois jours?
Bonne question.
Ouais, c'est... Potentiellement,
parce que c'est vrai que les talks, on va très vite parler de notre process d'écriture, oui, je pense. Et en fait, vu qu'on va être là les trois jours, nous, je pense qu'on va être une bonne dizaine d'humoristes qui vont être là tout le temps. Si les gens ont des questions à nous poser, il n'y a aucun problème pour qu'on vienne, parce qu'en fait, les gens n'osent pas nous poser des questions sur l'après ou l'avant-spectacle. Et c'est vrai qu'il y a tout un process d'écriture qui est super intéressant. Et donc, ouais, si les gens.
Et qui est primordial. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, le stand-up. Je pense que c'est. Quand on arrive justement et qu'on voit quelqu'un qui prend un micro et qui raconte sa journée en mettant des blagues à l'intérieur, je pense que les gens se disent peut-être que c'est quelque chose qui... Juste, il s'agit de monter sur scène et voilà, de faire les choses, mais il y a quand même des heures et des heures de travail avant pour conceptualiser la blague. Ce qu'on appelle la musicalité, c'est comment faire rire les gens au sein d'une même phrase. En fait, c'est accentuer sur peut-être une fin de phrase, la dire plus vite, la dire moins vite, poser les choses, faire des pauses. Et c'est vraiment
Important, ce qu'on appelle la prosodie.
Oui, globalement, ouais. Ce qu'on appelle la musicalité dans le stand-up, ouais. C'est vraiment ça de la blague.
Ouais. Je posais aussi la question à dessein, puisqu'il y a énormément de critiques qui ont émergé ces derniers temps, notamment à l'encontre de certains humoristes qui passent à la radio sur le fait qu'ils n'écrivaient pas eux-mêmes leurs vannes. Et qu'ils ont besoin, avec ce rythme effréné de production, de personnes qui écrivent les vannes à leur place sans jamais les créditer. Un peu pour le dire vulgairement, des nègres du stand-up. Vous, c'est des pratiques que vous avez déjà pu constater par ailleurs, de l'écriture sans forcément avoir... voilà, mais en tout cas, écrire à plusieurs, ces émulations oui. intellectuelles, où, et parfois peut-être travailler... bon, on va co-écrire un spectacle, c'est moi qui vais l'avoir dans ma voix, mais...
Ouais, ça se fait très très... Enfin, dans le milieu professionnel, ça se fait énormément, même que ce soit dans la musique, etc. Mais dans le stand-up, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui co-écrivent et qui... Enfin, je pense à Navo, notamment, qui est un très très bon écriteur, qui n'est pas forcément un très bon interprète, mais par contre, c'est un super...
On dit écriteur.
Oui, non, je ne sais pas du tout ce que
écrivain.
Je
veux dire.
Écrivain.
Un authentique...
Je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai dit, j'ai fait « Oups !»
Vocabulaire.
Un très bon écrivain, excusez-moi.
C'est un artiste.
Plante de loin.
Voilà, d'accord.
Molière.
Un très bon écrivain, et en fait, c'est quelqu'un d'être très talentueux à ce niveau-là, et en fait, il écrit pour Ken Kojandi, Charles Soignon, enfin, de beaucoup, beaucoup de têtes d'affiches. Et donc non, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, et même pour les plus jeunes, enfin, je sais que vous passez pas mal de blagues entre vous, et...
Il y a un truc, ouais, en fait, c'est que y a certains humoristes qui n'aiment pas spécialement la scène, mais ils adorent écrire des blagues. Mmh. Ce qui fait qu'ils vont passer leur journée dans les comédie clubs et à la fin, ils vont voir les humoristes en mode « tu devrais essayer ça, tu devrais aller là, tu devrais aller là ». Et ouais, nous, entre humoristes, on se donne énormément de blagues, y a aucun souci là-dessus. Ben, moi, je sais que vu que je travaille énormément de persos, il y a beaucoup d'humoristes qui me donnent des persos parce qu'ils ne le font pas sur scène, parce que ça, c'est ma cam, en fait. Moi, j'ai travaillé ce qu'on appelle du one-line. C'est vraiment juste... Une phrase, une blague. Mais à l'inverse, si je veux travailler du développement sur la vie de quelqu'un, je vais pas me dire, bon, ok, le mec, la semaine dernière, il a été faire les courses. Eh ben, la semaine prochaine, vu que j'ai trouvé des blagues sur les courses, ben, je vais les faire. Non, je vais carrément lui donner, parce que ça vaut rien. Une blague, ça vaut rien, en fait. Mm. Puis, que la personne qui soit sur scène ait les rires, ou que ça soit toi, c'est pareil, parce qu'au final, t'es dans le public et t'entends les rires, ça reste cool, en fait, de savoir que les gens rigolent à ta blague, même si c'est pas toi qui l'as dit, en fait, au final.
Les blagues, là du coup il va y en avoir vraiment énormément à l'occasion de ces 3 jours. Le vendredi, c'est le Quasi Comedy Club qui ouvre la danse avec donc 6 humoristes entre 20h30 et 22h30. C'est gratuit, et c'est écrit sur le site internet. Par contre, et je cite, c'est déconseillé au moins de 16 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les jeunes n'ont pas le droit à l'humour, hein?
Parce que bagarre. On a l'habitude de faire une bagarre à la fin.
Voilà.
Bah, grosse bagarre. Alors, non, c'est qu'en fait.
On tombe dans du graveleux assez vite.
C'est pas qu'on tombe dans du.
Pas assez vite.
Ça
peut, mais pas assez vite. C'est juste que.
Non,
faut pas. Enfin, je veux dire. Non, vas-y.
En fait, il y a un truc aussi, c'est que. Une des raisons pour laquelle on met moins de 16, c'est qu'en fait, le public moins de 16 peut ne pas être attentif, parce que le stand-up, en fait, on pense que c'est super simple à regarder, alors qu'en fait, non, il y a vraiment une réflexion de comprendre toutes les vannes et tout. Et ça peut partir sur du graveleux, sur du politique, et des fois, en fait, on se rend compte qu'un public jeune ne va pas comprendre l'entièreté de nos blagues. Et on préfère aussi réserver ces soirées encore. C'est un peu les soirées pour adultes, mais c'est un peu le moment de décompression sans les enfants, en fait. Mmh. Et les parents peuvent rigoler de tout, ils n'ont pas besoin de s'occuper des enfants qui courent dans la salle ou quoi que ce soit. Et nous, en fait, ça nous enlève une pression en tant qu'humoriste aussi. Enfin, moi, je sais que jouer avec des enfants, c'est super compliqué. Ouais, pardon, jouer avec des enfants, c'est super compliqué parce que, en fait, ils vont participer avec toi. Donc, c'est cool, en fait, de mettre une première barrière, mais je sais pas comment dire ça sans passer pour le méchant de l'histoire. Trop tard.
Juste déconseillé, en effet. Bah, ouais, enfin, comme ça. Tu le disais, des fois, il y a des humoristes qui vont tenter des blagues plutôt. Soit qui vont avoir des références que le jeune public va pas comprendre, ou alors tout simplement vulgaire, grossier. Oui. Enfin, tu vois, un parent, on a déjà eu des parents qui sont venus avec leurs enfants de moins de 10 ans et tu commences à lâcher des bonnes vannes bien, bien sales. T'es pas très à l'aise, en fait.
Bah, quand tu demandes à un enfant de 10 ans si c'est ce que c'est qu'un préservatif et s'il en a déjà porté un, t'es là en mode bah. Mais ça va, parce que les parents viennent pas nous voir à la fin pour nous dire ah, c'est pas bien de faire ça. Et on est là en mode. En fait, dès qu'il y a des enfants dans la salle et on sait que c'est prévu sur la fiche que c'est déconseillé aux moins de 16 ans, on les tacle. Enfin, c'est les. Non, mais.
Alors, les enfants. Tu voulais pas passer pour le méchant de l'histoire, t'as l'air.
Trop tard. On les frappe. Non, mais les enfants, c'est des cibles, en fait. Parce que c'est des cibles faciles. Mais c'est trop bien.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a quelques blagues qui sont à connotation sexuelle. Donc, forcément, c'est vrai que voilà, c'est aussi ça, c'est ce. Voilà, laisser ça de côté et qu'on n'ait pas à se soucier de ça. Non, c'est vraiment ça, hein, globalement.
On en a parlé rapidement à l'instant. Samedi soir, Kevin Robin, mais aussi Nordin Ganso. Donc, je ne sais pas si on dit Ganso. Ouais. Lui, c'est un humoriste bordelais. Petit palmarès hein, à son actif. Étudiant le plus drôle de France en 2017, quand même. Membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Enfin, j'étais voir sur Wikipédia. Hein. Et ensuite, sa vidéo, quand il passe à Montreux, par contre, 22 000 vues. Il cartonne quand même pas mal. Il a un spectacle à Paris en ce moment avec Violet, je crois que ça s'appelle.
Oui, tout à fait.
Comment vous l'avez rencontré, puisqu'a priori il n'est pas du tout de la scène angevine.
Et aussi pour compléter, il fait aussi toutes les premières parties de Paul Mirabel, donc c'est vraiment un palmarès. C'est quelqu'un de nous qu'on avait rencontré au Angers Comedy Club qui était venu jouer chez nous, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager et jouer dans toute la France. Et en fait, vu qu'il était de Bordeaux, il est venu au début du Angers Comedy Club, il y a 2-3 ans, il était venu jouer et puis il a bien aimé la scène, il nous a trouvé sympa, etc. Du coup il est revenu quand il a un peu plus d'expérience et au final quand il a un peu plus grossi, c'est des genres de choses quoi, c'est des en restant en bon contact avec lui, donc il est sympa et puis il vient avec nous quoi.
Avec un cachet énorme de la part du 122.
C'est ça.
Énorme.
Des milliards de dollars.
Même plus que le Elfos là.
6 chiffres et 4 virgules.
Heureusement qu'Emilien a 100 000 likes sur TikTok.
L'argent de TikTok, c'est quelqu'un.
Dernière question, le temps presse. Dimanche, le festival se conclut avec une adaptation de 60 de Ken Kojandi, mais avec seulement 20 humoristes.
C'est ça.
Donc 3 minutes chacun. On peut pas faire de l'humour en prenant son temps. Il a fallu instaurer cette notion de dynamisme, de on y va, on enchaîne.
C'est le concept des comedy clubs d'avoir plusieurs humoristes pour en fait aussi diversifier les genres, pour que les gens s'y retrouvent, peu importe, même si les gens n'aiment pas trop, ils peuvent voir l'humoriste d'après. Et en fait, on a créé ce concept de 60 minutes 20 humoristes. Kian avait fait 60 minutes 60 humoristes, nous on a fait un peu avec les moyens et on avait fait une première fois, ça s'est super bien passé, et même en termes de dans les coulisses c'était quelque chose d'assez marrant, parce que 20 humoristes dans les coulisses forcément c'était et on a fait un petit after movie de tout ça, et là du coup on s'est dit on va faire la même chose mais avec tous les meilleurs humoristes qui sont passés au Angers Comedy Club, et donc ça va être une soirée vraiment 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 très bonne, je pense que...
Merci à tous les trois d'être venus dans nos studios. Paul, le lièvre du 122, Emilien et Benjamin du Angers Comedy Club et du Quasi Comedy Club. Je voudrais juste prendre 2 secondes pour, au nom de Radio Campus Angers, te remercier, Paul, puisque tu vas quitter le 122 pour d'autres projets et d'autres aventures. C'était vraiment cool de bosser avec toi. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu des échos. Vraiment, vraiment, merci. L'optimiste te souhaite bon vent. Le Menjong Festival, c'est les 3, 4 et 5 juin au 122. Tout le programme est à retrouver sur le www.le122.fr. On se retrouve juste après une petite pause musicale sur le Centre FM avec Chacharom, un morceau du tout dernier album du contrebassiste Avishai Cohen.
De retour à bord de l'Optimiste, il est exactement 18h26 et 21 secondes sur les ondes de campus. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loane. Salut Loane.
Salut.
Pour ta première chronique avec nous, on replonge tout droit en enfance, puisque tu vas nous parler de ton goûter préféré, les pépitos.
Et oui, en maternelle, à la fin de la journée d'école, j'étais trop pressée de rentrer à la maison pour le goûter.
Yam.
C'était presque toujours le même, des pépitos. Je me régalais à l'avance de ce gâteau bourré de sucre, d'huile de palme, de chocolat. L'hiver, j'aimais bien le tremper dans mon chocolat chaud banania. J'aimais pas les autres gâteaux. Ils étaient moins bons. Je me rappelle de la pub qui passait à la télé, elle était drôle et il y avait une musique qui rentrait dans la tête. Je pense aussi que c'est pour ça que je préférais les pépitos. Grâce à Pepito, je savais comment ils s'habillaient, les Mexicains. Bah ouais, ils avaient un poncho et un sombrero, ça va de soi. En plus, ils ont un accent drôle. Puis un jour, je me suis demandé... Mais attends, ce serait pas raciste, ça? Toute ma perception des personnes mexicaines était fondée sur une marque de gâteau. Qui plus est, cette marque utilise un personnage issu d'une bande dessinée italienne qui danse sur une musique espagnole pour incarner un enfant mexicain.
Pas hyper représentatif.
Pas trop. Mais alors, le chocolat chaud, banania, la boîte jaune, le grand sourire, les personnes noires souriaient vraiment comme ça tout le temps? En tout cas, cette représentation sur la boîte de chocolat leur donne un aspect vraiment simplet. Plutôt négatif, non? Difficile de faire la part des choses quand on est petit. Les publicités normalisent le racisme et entretiennent les stéréotypes culturels. Tout le monde connaît, c'est facile de parler aux gens grâce à ces clichés. Force est de constater que l'image que nous faisons de ces cultures est biaisée par les clichés entretenus par la publicité, et notamment par les publicités alimentaires. Dans le même thème, on peut citer les gâteaux Bamboula de Saint-Michel, un nom cliché, à connotation bien sûr péjorative, et une marque qui a sponsorisé l'ouverture d'un zoo humain où on exposait des personnes d'origine africaine en 1994.
Hier.
Le problème de toutes ces publicités alimentaires, c'est qu'elles entretiennent les clichés. L'enfant mexicain qui passe sa journée à chanter pour les pépitos de Lu, le tirailleur sénégalais de Banania qui affiche un large sourire à côté d'une boisson appropriée par l'industrie française, pays colonisateur, ou encore un jeune Africain habillé en léopard pour le gâteau Bamboula de Saint-Michel qui a pu l'idée que les personnes noires sont sauvages. Ici, que des stéréotypes qui modèlent la pensée au fur et à mesure des visionnages. Les autres cultures seraient forcément moins abouties et moins réfléchies que la nôtre. Ces pubs sont racistes, car elles mettent en avant une vision crédule, enfantine, mature, immature des autres cultures.
Immature.
Les pépitos, c'était bon, d'ailleurs, le goût n'a pas changé. Mais avec papa et maman, on a arrêté d'en acheter. Oui, on s'est rendu compte, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, aujourd'hui, c'est important d'en parler avec ces enfants qui prennent le goûter.
Merci beaucoup, Loane, pour cette chronique. Et évidemment, on ne mange ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. On rappelle également que suite à de nombreuses plaintes de la communauté latino-américaine, Pepito a décidé de ne plus utiliser ni son slogan, ni son petit personnage avec son grand chapeau en Amérique du Nord. C'est la fin de cet Optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour l'interview en grande pompe de notre chère équipe de volontaires en service civique pour cette dernière journée à nos côtés après cette magnifique saison. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Vous pouvez réécouter l'émission sur le www.radiocampusangers.com.